Radio Foot International, Annie Gasnier.
Un café des sports très spécial aujourd'hui, un café des sports déjà ouvert. Vous pouvez d'ailleurs nous écouter, évidemment, dans votre poste. Vous pouvez aussi nous suivre aujourd'hui et soyez au rendez-vous du Facebook Live parce que ça vaut le coup. C'est parti.
L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe
L'exploit de l'Olympique de Marseille.
La qualification de l'Olympique de Marseille.
Eh bien, nous avons donc mené une petite enquête sur l'Olympique de Marseille.
Café des sports spécial 120 ans de l'OM. Voici la composition de l'équipe. Numéro 9, Pipelette, Rémi, Gano. Numéro 10, le Messi de la Canebière, Alejandro Valente. Numéro 11, El Goleador, Marc Libra. Numéro 13, et à jamais le premier, Gilles Ferret. Éternel capitaine courage de cette OM, le numéro 23, Habib Bey. Et pour finir, entraîneuse et bonne mère de tous ces minots, Annie Gasnier.
Voilà le speaker de Radio Foot International, bien sûr, vous avez reconnu David Finzel, évidemment aux commandes. Alors, 120 bougies sur un gâteau d'anniversaire bleu et blanc. Heureusement, l'OM n'est pas seul pour souffler ses bougies, car 120 ans d'histoire, le club de Marseille a semé durant ces années la passion dans son sillage. Il peut compter sur des milliers de supporters, bien au-delà du Vieux-Port. Mais sa Coupe d'Europe, l'unique trophée européen d'une équipe française, peut-il suffire à nourrir sa légende ? Deux anciens joueurs de l'OM sont donc avec nous. Ils nous raconteront plein d'histoires, j'imagine, qu'ils nous raconteront aussi sans doute le poids de ce maillot, la ferveur marseillaise au quotidien, alors que se profile dimanche soir l'Olympico. Les Lyonnais de Rudy Garcia vont-ils gâcher la fête des Marseillais ? OMOL, l'affiche du week-end en France, en Angleterre, au sommet entre le premier et le deuxième, Liverpool face à Manchester City à Anfield, alors qu'en Allemagne, chaud rendez-vous à Munich entre le Bayern et le Borussia Dortmund. À Radio Foot, vous l'avez compris, aux couleurs de l'OM, c'est parti. Un club et une ville méditerranéenne en fête. Donc l'OM a officiellement fêté le 31 août 1899. Le 31 août 1899. Et il célébrera dimanche ce club, cet âge, on peut dire, canonique, autour d'un match et donc de son stade, avec notamment dans les festivités prévues un maillot unique destiné aux collectionneurs. Il y a aussi un cortège organisé par les supporters de la vieille garde et ils doivent se retrouver au rond-point du Prado pour aller ensemble jusqu'au stade et ça va sans doute beaucoup chanter. Un record aussi est attendu pour la fréquentation au Vélodrome. Ce record date de le dernier, 65 252 spectateurs. C'était un certain OM-PSG de 2017 où nous étions, n'est-ce pas, Marc Libra et Habib aussi, bien sûr. Radio Foot s'était déplacé. Aucun Lyonnais en tribune, alors ça fera un peu plus de place pour les Marseillais. Et puis, il y a aussi prévu un tifo grandiose, unique en Europe. C'est en tout cas ce que promet le président Hérault. Et ce tifo grandiose, eh bien, cela vaut 200 heures de préparation, nous rappelle la Provence aujourd'hui. Messieurs, vous, les acteurs de ces grandes soirées et de ces matchs de l'OM, dites-nous, quand on rentre sur la pelouse, quel est, comme on dit, le poids du maillot, de ses couleurs, quand on rentre, qu'il y a une foule qui vous attend, et évidemment qui attend du spectacle et qui attend de gagner. Marc Libra.
Non, mais c'est pas que de rentrer, c'est tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire dans la semaine, c'est quand on va faire ses courses, c'est quand on va faire l'essence, quand on va à l'école, quand on va...
Ça s'arrête jamais.
C'est non-stop, ouais, à Marseille, c'est non-stop. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une génération 2.0, il y a pas mal de réseaux sociaux, nous on n'a pas connu ça, mais c'est d'une violence, ça ne s'arrête jamais. Et alors, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que moi, j'ai quitté l'OM en 98-99 et qu'aujourd'hui, je retourne à Marseille. On dirait que je suis parti il y a quelques jours, quoi. C'est-à-dire que les gens me parlent comme ils se rappellent des matchs, des et même la jeune génération. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec vous. On nous écoute ou en médias, télé. Et les gens nous écoutent, nous voient. Ils disent « Ah ben oui, mais on se rappelle ». Donc, il y a toujours un rappel qui peut se faire par rapport à l'histoire. Mais le poids du maillot, il se vit au quotidien. C'est-à-dire que le jour où on signe à Marseille, j'ai souvent dit, le joueur qui dit « Oui, j'ai joué à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, j'arrive à Marseille. Oui, je peux supporter la pression, je suis venu au Vel. » Oui, mais après, il faut vivre à Marseille. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans l'ambiance. Et quand on vit dans ce genre de choses et qu'on arrive... Mais la pression, elle est bonne, la pression, quoi qu'il arrive. Parce que pour moi, c'était un élément moteur. C'est l'adrénaline, c'est ce qui me poussait. Moi, je suis arrivé en 88-89, j'étais dans les quarts de virage. J'avais ma carte de joueur de l'Olympique de Marseille en amateur. On allait voir les joueurs, c'était un Vel. Enfin, voilà. Et quand on baigne là-dedans... Ben, il faut pouvoir avoir le courage de rentrer là-dedans. Et ceux qui n'ont pas eu le courage sont passés à autre chose. Et ceux qui sont restés longtemps, ou comme Abu qui a été capitaine, ça veut dire énormément. Et le peuple marseillais, quand je dis le peuple, c'est tout le monde, s'en rappelle encore.
Habib, ce maillot, il est léger à porter ou il est lourd à porter?
Il est lourd dans un premier temps. Il devient léger lorsque vous êtes enfin adapté à ce contexte particulier. Moi, je trouve que c'est un contexte passionnel, fusionnel, je dirais même, avec cette ville, avec ce public. Ça coule dans leur sang. C'est-à-dire c'est comme une religion, comme une éducation dès le plus jeune âge, ça se transmet. On est incroyablement bercé dans cette ambiance qui est juste géniale. Moi, j'ai passé 4 ans exceptionnels. J'ai démarré avec quelques mois difficiles, mais malgré tout, comme le dit Marc, c'est-à-dire que aujourd'hui vous appartenez en quelque sorte aux supporters de l'OM. Et vous n'avez pas le choix. Les gens qui veulent se détacher de cette pression, en fin de compte, c'est impossible, puisque comme le disait Marc, vous allez faire vos courses. Moi, j'ai vécu, par exemple, des dîners avec ma femme en tête-à-tête où vous avez quelqu'un qui prend la chaise et qui vient s'asseoir et qui vous parle de l'OM. Et pour lui, c'est une normalité. Et vous avez envie de lui dire, écoute, je vois pas très souvent ma femme, j'ai envie de dîner avec elle. Mais pour lui, non. Lui, il est là pour parler de l'OM parce que c'est son sang, parce que c'est son club et il a envie d'avoir des réponses à ces questions. Et en quelque sorte, il faut savoir s'adapter à cette situation-là. C'est vrai que ça peut être dévastateur dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des joueurs qui n'arrivent pas à supporter cette pression au quotidien et puis vous avez des joueurs que ça porte. Moi, j'avais l'impression en fait d'être dans mon arène. J'étais gladiateur, j'étais Russell Crowe quoi. Quand j'arrivais au Vélodrome, c'était mon endroit, c'était mon jardin, c'était ma pelouse, ça m'appartenait et c'était grâce à tout ça. Après, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à passer ce cap et qui malgré leur talent, parce qu'on en a vu beaucoup de joueurs de talent arriver à l'OM et se cracher complètement parce que ce club est à part. Et j'ai pas peur de le dire, même si aujourd'hui on parle pas de l'hégémonie du PSG sur ces dernières années, c'est le plus grand club français. Incontestablement dans tout ce que ça implique.
En préparant l'émission, on se disait, est-ce que c'est un des rares maillots encore où on a l'amour du maillot dans le vrai sens du terme, parce que maintenant on sait que les joueurs tournent sur les équipes et ne restent pas forcément longtemps dans un club.
Bon, je pense que sur l'amour du maillot, il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui qui n'est plus possible de mettre en avant, parce qu'il y a un contexte économique qui fait que même si vous êtes amoureux du maillot, c'était mon cas. J'ai joué 4 ans à l'Olympique de Marseille. Il était pour moi hors de question de quitter ce club. Sauf qu'à un moment donné, je suis arrivé à un âge où les sirènes de l'étranger, des propositions qui sont 4, 5, 6 fois supérieures à ce que vous avez en France, à un moment donné, vous remettez en question cet amour du maillot. Je l'ai toujours, cet amour du maillot. Mais il y a aussi un contexte économique, une gestion de carrière qui fait que il est très difficile de s'identifier à un club pendant toute une vie, comme ont pu le faire des Maldini, qui étaient eux dans des immenses clubs et ils n'avaient pas besoin de bouger, ou comme un Messi aujourd'hui à Barcelone. Mais on parle de joueurs hors catégorie. J'aurais aimé jouer à l'OM 15 ans, mais j'y ai joué 4 ans et j'ai l'impression d'avoir passé 10 ans parce que c'est tellement intense qu'au bout d'un moment, le fait de sortir de ce contexte-là vous permet aussi de dire, ah ouais, c'était quand même, pesant, mais c'était 4 années exceptionnelles et je crois que l'amour du maillot, il existe pendant ces 4 années. Après, bon, c'est difficile de se revendiquer comme les gens font, j'embrasse le petit médaillon. Bon, je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie parfois sur certains joueurs.
Rémi N'Gono, ce club de Marseille, est-ce qu'il reste un club avec ses 120 ans? Est-ce que ça le met à part dans le football français toujours?
Je voudrais dire que l'Olympique de Marseille, c'est comme l'Empire ottoman, c'est comme l'Empire romain. C'est existé, c'est mort. Il ne faudrait pas qu'on parle toujours d'un passé composé, décomposé, non, recomposé.
C'est 120 ans, Rémi.
Mais attendez, 120 ans, où est le bilan? J'aime bien voir mon ami Habib Bey et les grands Marseillais nous chanter, c'est le plus grand club vraiment qui reste. Mais non, c'est pas parce qu'on a remporté une Coupe d'Europe, mais Et il y a bien des clubs qui ont remporté des coupes une Coupe d'Europe qui ont eu à disparaître. Et même, donc quand je vois aujourd'hui ce Marseille, voilà un maillot. Et d'ailleurs, dommage pour mon fils, et pour mes fils d'ailleurs, parce que ils portent ce maillot. Et chaque soir, ils sont en train de pleurer. Et chaque jour, encore, le week-end dernier, contre le Paris Saint-Germain, tous, ils n'ont pas mangé. Tout, il y avait une grève de la faim chez moi parce qu'au bout de la mi-temps, tout le monde était déjà parti au lit. Donc, ce Marseille, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un club qui donne de la douleur à ses supporters. En ce temps, un petit club vient quand même derrière là, comme par exemple Montpellier, il gagne un championnat de France, mais Marseille n'arrive même pas en Coupe d'Europe.
Dernier donc, titre 2010. Hein.
Voilà, donc, il faut qu'on arrête. Marseille a existé. Dommage, vous faites passer du passé lointain. C'est-à-dire, attendez, c'est le fossé. C'est un club fossilifère aujourd'hui. C'est un mammouth entier du Livien qu'on voudrait nous vendre. Ce maillot aujourd'hui a vieilli. Mais attendez, lorsque le lion est mort, il ne reste plus que la crinière.
Donc, si je écoute Rémi, en fin de compte, il prend l'histoire sur les deux dernières années, on va aller dans ce sens-là. Rappelle-moi, le Cameroun n'a pas été éliminé en Coupe d'Afrique, donc c'est tout à dire, il n'y a pas d'histoire au niveau du Cameroun parce que ces derniers temps, le Cameroun n'est pas bon.
Ah, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui.
Mais non, l'histoire aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante.
L'histoire est sur la durée. Devant les lions du Sénégal aujourd'hui. On va dire ça fait partie, comme je vous ai parlé de l'Empire ottoman, comme on parle de Napoléon. Mais Napoléon n'existe pas, De Gaulle n'existe plus. Nous parlons présent, et quand vous parlez d'un club aujourd'hui, tout
Rémi,
comme
non, justement, l'émission Rémi est sur une émission où un club a été créé pendant depuis 120 ans.
Un trophée européen,
c'est le seul club français.
Vous avez été battu.
C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Et tu pourras pas enlever ça à l'Olympique de Marseille.
Pas du tout d'accord avec Rémi.
Vous ne pouvez jamais être d'accord avec moi, Barcelonais, que vous êtes.
Boum, c'est même pas Marseille.
On dit que les grands clubs ne meurent jamais. Je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Il suffit de regarder la réaction de nos auditeurs sur la page Facebook. Il y en a beaucoup de toute l'Afrique qui nous disent l'amour qu'ils ressentent pour ces
clubs. Moi-même, j'étais Marseillais, ne vous en faites pas.
Mais vous étiez.
Mais le problème, c'est que tu ne le sois plus, ça veut dire que tu ne l'étais pas.
Ah non, mais attendez.
On ne devient pas et on ne change pas de crème comme ça.
On peut même épouser une femme et la répudier, mon cher. Si elle vous déçoit, vous la répudiez. Mais aujourd'hui, attendez, l'amour n'est pas obligatoire. C'est pas un contrat à durée indéterminée. Il y a des clubs qui peuvent naître aujourd'hui, vous en devenez amoureux. Et il y a des clubs où vous avez, par exemple, vous aujourd'hui, vous êtes parti à Newcastle. Vous allez dire que vous n'aimez pas Newcastle et pourtant, vous étiez aussi Marseillais. Vous avez aimé parce que vous avez joué dans plusieurs clubs, vous pouvez être polygame de club.
Mon histoire d'amour, elle est avec l'Olympique de Marseille en tant que club, en tant que fan, en tant qu'admirateur de ce club parce que j'ai vécu les années 90 lorsque j'avais 14 ans. Newcastle, c'était mon travail. Je suis pas aujourd'hui un amoureux de Newcastle comme je peux l'être de l'Olympique de Marseille. Et je suis assez surpris que tu aies changé comme ça d'avis et surtout sur les années récentes parce que l'histoire d'un club, elle se fait sur 120 ans. Ce club a gagné la Ligue des Champions. C'est le seul club français. Et aujourd'hui, ce club dégage quelque chose. Lorsque tu regardes ce stade, il dégage quelque chose. Peu importe les résultats. C'est pareil pour le Cameroun. Il y a 2 ans, vous êtes champion d'Afrique. Là, vous l'êtes plus. Ça veut pas dire que le Cameroun n'existe pas. C'est un grand d'Afrique dans son histoire et tu peux pas chaque année remettre en question en fonction des résultats l'amour que tu as pour un club.
Un Marseillais pur jus et qui, je crois, est tombé dedans quand il était tout petit, un peu à la mode d'Obélix, c'est Gilles Pérez. Bonjour Gilles.
Oh Boudjou, Annie, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là?
J'ai des Marseillais pourtant quand même, 2 sur 4.
Alors d'abord, vous m'envoyez un Minitel que je peux même pas vous voir en direct à la vidéo. Bon, bah ça marche pas hein, sur le Minitel, le Facebook Live. Et puis sinon, franchement, vous m'avez fait un début exceptionnel, une émotion, mais voilà, j'avais les poils qui se hérissaient tout d'un coup. Et puis... que m'arrive-t-il? J'avais le grand Marc Libra, l'ancien père avec Tony Cascarino, là, qui prend la parole, il devient celui qui a été le séducteur du Vieux-Port, quand même. Toutes les Marseillaises, et il faut le dire, s'en souviennent de Marc Libra à Marseille. Alors, c'est pas étonnant si aujourd'hui, quand il revient, effectivement, tout le monde lui tombe dans les bras, parce qu'on est un peu cousins avec Marc Libra. Ouais. Il a laissé, effectivement, un certain nombre d'amis et de descendants. Et puis... Je ne sais pas si vous le voyez grâce à mon Minitel, mais j'avais ressorti mon petit maillot avec marqué Happy Bay. J'étais persuadé qu'il allait l'autographier ce soir pendant l'émission. Et non, finalement, j'arrive même pas à vous voir. Et puis tout d'un coup, tout d'un coup, la girouette, vous nous envoyez comme ça un scud venu de nulle part, du Cameroun.
Si, venu d'Afrique, ouais, c'est ça.
Peut-être du Cameroun, qui tout d'un coup nous dit « Ah mais en fait, l'Olympique de Marseille n'existe plus ». Alors non, ces voix d'outre-tombe.
Vous nous rassurez, Gilles, ça existe toujours.
Mais non seulement ça existe, mais vous la voyez, cette ville, il faut juste descendre. Il faut venir les lendemains de victoire, il faut venir ici les lendemains de défaite. Tout d'un coup, vous ressentez un poids énorme, une chape de plomb sur la ville, les rares soirs où on perd. Hein. Donc, tout d'un coup, tout le monde est déprimé. Mais je vous le dis très sincèrement, on va au travail, on va au café prendre le petit café, et tout d'un coup, les conversations, elles ont du mal à démarrer. Et puis, ça va toi ? Oh, ne m'en parle pas, j'ai bien du mal. Et forcément, ça rejaillit sur l'ensemble de la ville. Une défaite, il nous faut une petite semaine pour nous en remettre. Bon, ça va, arrive le dimanche et tout d'un coup, l'allégresse revient. Ce qui, moi, me fascine totalement, mais depuis Minot, effectivement, depuis l'époque des quarts de virage jusqu'à aujourd'hui avec ce nouveau vélodrome, ce qui me fascine, c'est comment on peut tomber dans les bras les uns des autres, comment, quelles que soient les religions, quelles que soient les races, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos conditions sociales, on peut se serrer fort comme du bon pain à chaque fois qu'un joueur de l'Olympique de Marseille parvient à faire trembler les filets. Cette ville, c'est ça, c'est ce mélange qui peut se passer dans les virages, c'est ce mélange qui peut se passer dans les cafés quand on regarde le match à la télévision, que c'est des matchs à l'extérieur et qu'on ne fait pas le déplacement. C'est tout d'un coup comment finalement le ballon est une véritable revanche sur la ville, et sur la vie vraiment. Pourquoi ? Parce que Marseille est une ville pauvre. C'est une ville qui connaît des problèmes sociaux énormes. Il y a des très très riches et il y a des très très pauvres. Vous avez le quartier le plus pauvre d'Europe qui est à Marseille. C'est le quartier de la Belle de Mai. L'Olympique de Marseille représente un espoir. Un espoir représente une revanche sur la vie, une revanche bien entendu sur la capitale du Nord, sur Paris. Mais c'est aussi tout d'un coup... Voilà, affirmer une identité particulière. Et cette émotion-là, lorsque vous la touchez, c'est palpable. Lorsque vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, tout d'un coup, a la banane parce qu'il vous dit, vous avez vu, on a bien joué, hein, on a été bon. Hein. Quelqu'un à qui vous parlez aujourd'hui encore, en 2019, de Pierluigi Collina, je ne vous casse pas, tout de suite, ça devient la bête noire. On ne peut plus revoir cette finale de Coupe de l'UEFA où Habib Bey jouait et où notre pauvre Barthez a été exclu sur un carton rouge. On est totalement un stade au milieu de la ville. Vous en connaissez beaucoup. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais dans le 16e arrondissement de Paris, il y a aussi un petit stade qui s'appelle le Parc des Princes.
Exactement.
Voilà, d'accord, ok. Dans un quartier éminemment bourgeois, voire aristocratique, mais qui colle bien à l'image de ce club. Nous sommes où ? Eh bien oui, nous, on est sur le Prado. Et qu'est-ce qu'on va faire, effectivement, ce dimanche ? On va faire un immense cortège, non pas du Prado, mais directement depuis la statue de David. Imaginez, on va parcourir 1,7 km pour arriver jusqu'au Vélodrome et pour agiter nos couleurs. Cette ferveur-là, on la retrouve presque nulle part ailleurs. Elle a une caractéristique supplémentaire sur laquelle je voudrais vraiment insister. Parce que les 15 derniers jours que je viens de vivre à Marseille ont été des journées marquées par la commémoration. Cette ville a été endeuillée. Il y a un an, précisément, le 5 novembre 2018, deux immeubles du centre-ville, du quartier Noël, se sont effondrés. Une personne sont mortes. Une enfant de Marseille sont morts. Les familles des victimes étaient présentes, bien sûr, pendant tous ces hommages, mais il y a eu, depuis un an, 3500 personnes qui ont été délogées. Il y a eu plus de 400 immeubles dans tout Marseille qui ont été déclarés inhabitables, en péril imminent. Qu'ont fait les supporters de Marseille ? La semaine dernière, avant le démarrage du ballon, il y a eu deux tifos. Un tifo magnifique fait par les MTP Marseille Trop Puissant, club fondé en 1994 par Depay, où il y avait marqué un immense rue d'Aubagne, 6e arrondissement, avec l'ensemble des noms des morts, les 8 morts, avec ce petit mot supplémentaire aux absents. Ils ont invité l'un des enfants qui a perdu sa maman. Sa maman l'avait accompagnée le matin à l'école, elle s'appelait Ouloumé. Elle est rentrée à la maison chercher ses papiers et à 9h05, l'immeuble s'est effondré. Ce petit, est un dingue de ballon, comme tous les petits minots ici de Marseille. Ce petit a été invité par les clubs de supporters à venir assister à un match un an après pour essayer d'égayer un tout petit peu son horizon.
Donc Gilles, c'est
l'ensemble,
un... voilà, pardon, ce sont des supporters.
Virage, le virage sud avait marqué un immense noaille avec un immense cœur. Et je vous cache pas que voilà, cette ferveur qui est une ferveur à responsabilité sociale pour Marseille, effectivement, elle est importante, elle est décisive. Et ne donnez plus la parole à la girouette camerounaise, parce que tu peux pas. S'il vous plaît.
Merci, merci beaucoup Gilles de ce témoignage avec le cœur des joueurs.
C'est ça Marseille, c'est exactement ce que vous avez entendu.
Ah, voilà.
Tout ce que vous avez entendu.
Donc vous êtes bien à l'unisson de ce qu'ont connu nos joueurs marseillais. Merci beaucoup Gilles Pérez d'avoir témoigné de si loin et de si près du stade Vélodrome. Où vous serez dimanche soir
Abby, oui.
N'est-ce pas?
J'espère.
Vous allez participer
victoire.
À tout ça. En tout cas, celui qui a indéniablement, on va y venir à ce match, qui a l'amour du maillot de l'OM, c'est Steve Mandanda, bien sûr. Il a déjà porté 503 fois ce maillot depuis 2007, un record. Il a dépassé alors un ancien, à l'époque où on passait toute sa carrière dans le même club, Abby Bémarck, c'est Roger Scotti. 1942-1958, lui, il l'avait porté 453 fois. Quel est le meilleur souvenir de Steve Mandanda? Écoutons-le.
Pour moi, le plus beau, c'est l'année du titre. C'est l'année du titre, une année qui est un peu compliquée. Et puis, quand même assez compliquée, parce qu'à la trêve, on a pas mal de points de retard sur Bordeaux. On arrive à combler ce retard. Il y a ce match à domicile où on est officiellement champion contre Rennes, où on gagne 3-1 avec ce but de Lucho qui délivre un peu tout le monde. C'est un grand, grand moment. Ouais. Cette saison 2009-2010 a été la plus importante et la plus belle. Ouais. Pour moi, le plus beau, c'est l'année du titre. C'est l'année du titre, une année qui est un peu...
Alors, le plus beau, c'est l'année du titre. Marc, quel serait votre plus beau souvenir?
Pour moi, ça va dire que c'est ma première ovale. Ma première ovale en tant que jeune stagiaire en 89.
On
quoi.
Est stagiaire aussi à l'OM.
Ah ben on est stagiaire quand on arrive, on est aspirant. Parce qu'on n'avait pas l'âge pour avoir un contrat, donc on est d'abord aspirant, puis après on est stagiaire, puis après on signe pro après 5 ans.
On
si
voit
on a
tout beau là derrière
de
sur nos images de Facebook.
Voilà, là, mais j'avais déjà arrêté là. J'ai travaillé pour l'Olympique de Marseille, c'était en 2006-2007. Un peu des cheveux, ouais, ça la mèche. Mais c'est difficile de retenir un moment. Je pense qu'il y a eu tellement de moments forts. On parle de Coupe d'Europe, on parle de montée, on parle de Ligue 2. Moi, j'ai connu ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille des rockstars, c'est-à-dire que avec les Deschamps, les deux de Jean-Pierre Papin, Rudy Voleur, Bokchik, Barthez, enfin toute cette équipe-là. Et puis après, j'ai connu la descente aux enfers qui était très difficile, mais qui était magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, quoi. Il restait 4 personnes au club. Et c'est une époque où les gens me disent c'était difficile. Enfin, quand je dis 4 personnes, c'est 4 personnes qui travaillaient au club.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien de rien. Et il n'y avait qu'un but, c'était essayer de couler le club, de faire disparaître le club. Donc on va dire qu'on s'en sort plutôt pas mal en deux saisons, puisqu'on est quand même champion de France la première année. Puis on lui dit non, vous allez... Donc il y a tellement de moments que c'est impossible pour moi de dire un moment précis.
Habib, vous en avez un de moment, de souvenir précis?
Oui, 2004, la demi-finale face à Newcastle, où je pense que même quand je discute aujourd'hui avec les supporters marseillais, depuis ils n'ont pas connu telle ambiance en fait dans le stade Vélodrome. Il y a eu les matchs récents où il y a eu Salzbourg ou Leipzig, où c'était assez impressionnant, mais tous les gens qui ont vécu cette période face à Newcastle, il n'y avait pas de toit. Et c'était exceptionnel parce que lorsqu'on a gagné, je peux vous dire, on était sur la pelouse et on avait l'impression de sentir les vibrations en fait du stade Vélodrome. C'était une accession en finale de Coupe d'Europe. Donc c'est le meilleur moment que j'ai pu vivre à travers cette demi-finale qu'on gagne 2-0 avec le doublé de Didier. C'était un moment exceptionnel.
Alors, ce qui justement marque l'histoire de ce club aussi, eh bien, c'est cette passion et notamment aussi cette finale dont on a tous parlé à un moment, cette finale de 1993, le 26 mai à Munich, lorsque Marseille va remporter le titre face à l'époque au grand Milan AC. Eh bien, écoutons un extrait du film de Gilles Pérez, parce que Gilles Pérez, notre confrère de Marseille,
ouais.
Voilà, a fait avec Gilles Roff un très beau film qui s'appelle « À jamais les premiers », un documentaire empli de témoignages autour de ce match, de l'avant et l'après. Et justement, écoutez l'avant, parce que ces Marseillais, eh bien, ils étaient partis à Munich et ils avaient pavoisé cette ville qui peut avoir des couleurs rouges, n'est-ce pas? On pense au Bayern. Eh bien, pavoisé aux couleurs de l'OM.
C'est le le bleu et c'est le blanc qui tapissent toute une moitié du stade avec leurs casquettes, avec leurs écharpes, leurs ballons, leurs fanions. Les Marseillais ont en quelque sorte déménagé à Munich. Ils y ont réinstallé leur quartier d'été, leur quartier nord, leur quartier sud, leur centre et leur 110 villages. Imaginez un peu, imaginez une seconde, Marseille, on est avec des statues, non, ils ressemblent plutôt à des hommes en passe, qui sait de devenir des héros. Saisissez donc leur regard à ces joueurs. Il est indifférent à l'adversaire, mais pas du tout à la coupe qui trône là, à deux pas de cette pelouse qu'ils foulent un à un. Tout comme les Milanais, ils la regardent cette coupe, les Olympiens.
J'ai fait un rêve extraordinaire, étrange et merveilleux à la fois. J'ai vu l'OM atteindre le paradis bleu et blanc, et Milan descendre vers l'enfer rouge et noir.
L'OM, justement, a atteint ce paradis bleu et blanc. C'est le plus grand exploit de l'OM. Alejandro Valente, c'est celui aussi le plus grand exploit dans le football français. C'est ce qu'on disait et ce que disait Habib. C'est la seule fois où un club français ramène une coupe européenne. Absolument. Alors, coupe Ligue des Champions, puisque des champions, le PSG en a gagné une aussi l'autre.
En 96.
Voilà.
Ben, c'était un peu le couronnement de ce qu'on a appelé les années tapis, qui ont quand même été une des périodes à la fois les plus brillantes et les plus controversées de l'histoire du club. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de ces années dans mon travail de journaliste. J'y allais souvent. J'étais toujours frappé par la folie qu'on rencontrait là-bas. J'ai eu même droit à la une du journal La Provence avec ma photo et tout, parce qu'ils étaient fiers de voir un journaliste sud-américain venir faire un reportage de l'OM avant la finale contre l'Étoile Rouge. Donc, évidemment, c'était sans doute le plus grand exploit, d'autant plus grand que l'affaire VAOM venait d'éclater et qu'il y avait ce mélange à la fois des talents et des polémiques qui accompagnent souvent ce club.
Est-ce que cette tâche, alors Marc, vous y faisiez aussi allusion à ces descentes aux enfers parfois, est-ce que cette affaire OMVA aurait pu peut-être mettre fin à l'OM ?
Bah, c'est pas loin, hein. C'est-à-dire que si on n'est pas une bande de minots, parce qu'il y a eu des générations des minots 85, et puis nous, il y a eu après...
Donc les jeunes du centre de formation. Hein.
Ouais, les jeunes du centre de formation, et des anciens comme Casoni, comme Ferreri, comme Barthez qui sont restés pour eux, des Michel Devol qui sont arrivés, des Bruno Germain.
Pour
qui
remonter
sont restés,
l'équipe et le club.
Pour essayer, parce qu'autrement, nous ne serons pas arrivés toutes seules, et eux, pareil avec nous. Donc il s'est passé quelque chose, il s'est passé aussi une fusion, encore une fois, avec le peuple marseillais, avec le public qui a été omniprésent, qui n'a jamais rien lâché, parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits, vous jouez la Ligue des Champions, et puis l'année d'après, on vous dit, mais vous jouez plus rien, pas de coupe intercontinentale, vous ne jouez plus rien, vous allez jouer à Cuisolouan, vous allez jouer à Angers, vous allez jouer... Ah ouais, d'accord, ça change. Les supporters ont toujours été présents, ils n'ont jamais, jamais lâché. Et au bout de la première année, ben non, finalement, il faut encore rester en deux. Mais pourquoi ? Ben parce que c'est pas fini. Mais attendez, mais on a payé. Non, c'est pas fini, il faut continuer. Donc il faut repartir en croisade, parce que c'était des croisades à l'époque. Et à l'arrivée, ça a donné ce genre de choses, c'est remonté. Mais je pense que l'OM s'est fait de ce genre de choses. Il faut que ça vive. C'est comme ça, c'est pas... Beaucoup ont dit c'est le calvaire, c'est si, mais franchement, de ma carrière, c'est extraordinaire. J'ai encore des gens qui me parlent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Newcastle, on parle de ma Coupe d'Europe de Sion, on parle de demi-finale face à Auxerre, et les gens se rappellent de ces matchs-là. Il y a des gens qui vont se rappeler d'un match face à Poitiers, face à Cuisolon, où des gens nous ont vus dans des endroits de la France où jamais, à l'époque, Charleville, ils nous ont vus, mais c'était l'émeute. Mais c'était un truc de dingue. On était en Ligue 2, le club n'avait presque plus rien. On était capable d'aller gagner là-bas, de faire des résultats, et tout le monde suivait. Et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est très émouvant de parler, parce que on a vécu des moments très très forts. Parce que moi j'ai fait aussi Barry en 91, où là on arrive la fleur au fusil, on va gagner. 93, mais j'ai vu des choses, c'est-à-dire qu'on part avec Alain Bogossian, on n'est pas dans le groupe parce qu'on est un petit peu jeune. On part sur la route à Biblecé, sur la route à Marignane. C'est tellement bouché, on va rater l'avion, on garde la voiture sur l'autoroute. C'est-à-dire que, non, mais c'est lunaire quand on vous dit ça. On garde les voitures, tout le monde, sur l'autoroute. Et on part en courant pour prendre l'avion pour aller à Munich. Mais faut le vivre pour le croire. Je vous assure, faut le vivre. Et quand on est rentré le lendemain, on est dans des premiers vols à 6 heures, on a vu ce qui s'est passé dans la ville, le dénouement, les gens qui attendent les jeux. Mais c'était gigantesque, des gens. Enfin, c'était. Enfin, j'ai encore la chair de poule parce que on était là-bas. Barry, c'était dur. Munich, c'était extraordinaire ce qu'on a pu ressentir. Les gens ne chantaient pas, ils hurlaient les gens tellement que ça ne s'arrêtait pas. Et puis on a vécu ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que c'est fait. Il faut Et ils ont payé pour ça. Tapis, tout le monde a payé pour ça.
Alors justement, la force populaire de Marseille aussi, c'est qu'elle envahit un peu, il a envahi un peu tout ce club de l'OM. On écoutera tout à l'heure l'OM en chanson, mais il y a aussi le cinéma. Écoutez cet extrait qu'on a retrouvé avec David Finzel sur dans les archives, on va dire. Ce film, Les Rois du sport, date de 1937. Il est signé Pierre Colombier et écoutez, Fernandel et Rému, ils sont deux serveurs du Café des Sports, hein, on n'a pas inventé du Café des Sports, mais de Marseille. Écoutez ce qu'ils disent.
Je ne sais pas si je dois rester votre ami.
Ah, écoute, je ne l'ai pas fait exprès, c'est le ballon qui m'a filé entre les jambes comme un lapin.
Oh, c'est une catastrophe.
Ah, j'aurais bien voulu t'y voir, toi, tiens, toi.
Moi, mais monsieur, moi, je ne monte pas le coup.
Moi non plus, je ne monte pas le coup, moi. Non,
oui, monsieur, oui, monsieur, vous montez le coup. Moi, je suis le tome, moi, monsieur. Moi, je ne me dis pas gardien de but que je ne sais pas le garder. Moi, monsieur, je ne suis pas notre cuidant.
Moi, je suis le cuidant.
Oui, monsieur, oui, monsieur. Vous n'êtes pas un gardien de but, vous êtes une passoire.
Moi, je suis le passoire.
Oui, monsieur, vous êtes une vraie passoire et usée encore. Mais vous m'embêtez, vous avez compris, monsieur. Vous m'embêtez, vous avez compris. Je vous reverrai jamais plus de ma vie. Adieu.
Jules, qu'est-ce que tu prends?
Un demi. Et toi, qu'est-ce que tu prends?
J'ai envie de rien.
Vous m'en voulez, Antoinette?
Alors voilà, hein, on est complètement à Marseille, là. Et c'était 1937. Hein.
Mais c'est ça.
Hein, c'est ça. Et il y a un film où on évoque l'OM, on évoque... Alors, c'était pas le Vélodrome à l'époque, hein, c'était un autre stade, le stade de Luvonne.
C'était à Luvonne, c'était à côté de la statue du David. Parce qu'on a commencé, on s'entraînait là-bas, nous, les jeunes du centre. Et maintenant, ils ont mis des bâtiments, des immeubles.
Oui, bon, évidemment. Mais en tout cas, le stade a changé. Habib, vous l'avez vu évoluer, le stade de Marseille, le Vélodrome. Alors, il y a eu un Vélodrome, un peu comme à Reims ou au Parc des Princes. C'était avec une vraie piste autour. Ensuite, ce stade a été agrandi, a changé les tribunes et tout ça. Maintenant, vous y allez en tant que observateur, on va dire commentateur. Est-ce que l'ambiance a évolué en bien?
Oui, c'est autre chose maintenant. Avec le toit, forcément, il y a beaucoup plus de résonance. Avant, lorsque ce stade était ouvert à mon époque, c'était assez incroyable d'entendre autant de bruit, mais c'était forcément perdu, ça partait. Là, il y a une caisse de résonance quand les virages, justement, se rendent un petit peu les champs, c'est assez exceptionnel. Donc oui, il a évolué, il est magnifique aujourd'hui. En plus, ils sont en train de créer plein de choses autour pour créer une forme de vie autour du Vélodrome, parce que c'est vrai que quand ils ont construit le toit, c'était le toit et un bloc de béton et rien autour. Là maintenant, il y a des centres commerciaux, il y a des espaces de vie, ils vont essayer de développer ça puisqu'ils ont récupéré la concession du stade, et ça c'est intéressant pour générer aussi économiquement de l'argent pour l'Olympique de Marseille. Mais bien sûr que ce stade
c'est un stade justement somptueux par rapport à d'autres, hein, où on a l'impression de voir un peu les mêmes stades se répandre dans le monde. Là, les supporters ont obtenu de garder les virages.
Oui, c'est ce qui fait le charme de ce stade. Après, ce qui est incroyable, c'est le stade, il est en pleine ville. Il est en centre-ville, il est
exactement
boulevard du Prado, boulevard Michelet. C'est
on y arrive en métro, on
va à la plage, 10 minutes après on est au stade.
Exactement, donc non, c'est à part, et oui. Puis c'est un stade exceptionnel.
Gilles Pérez, vous qui de temps à autre allez parmi les supporters pour suivre les matchs, l'ambiance des anciens virages, elle est restée la même?
C'est vrai qu'elle a changé. Alors, de fait, l'installation d'un toit, ça a été fait en plus avec un acousticien, pour véritablement que l'ensemble des cris, des chants, de la ferveur populaire des virages retombe bien sur le gazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est un véritable 12e homme, et depuis le début, c'est une espèce de tarte à la crème de dire que les supporters sont un 12e homme, mais à Marseille, vous le ressentez physiquement. Et oui. Aller sur le gazon, enfin, Habib Bey et Marc Libra peuvent en témoigner, effectivement, vous sentez cette présence juste à vos côtés. Et lorsqu'ils ne la sentent pas assez fort, je ne vous cache pas qu'on crie encore un peu plus fort pour que tout d'un coup, ils se réveillent et qu'ils nous envoient la révolte.
Justement, on voit la photo de ce beau stade, parce que c'est vrai qu'il a été fait, il est vraiment très différent de ceux qu'on voit actuellement.
Moi, j'ai connu, il y avait encore la piste. Donc en 88-89, il y avait la piste. Donc après, il a été un petit peu modifié. Après,
c'est une belle évolution.
Pour 98, ils ont refait, pendant 3 ans, on avait un nouveau stade. Mais je pense vraiment qu'il faut, du jour au lendemain, il faut vraiment y aller une fois pour voir ce qui peut se passer, pour comprendre et ce qu'on peut ressentir dans ce stade. Alors ma femme est là aujourd'hui, et elle a fait un match au Vélodrome, elle n'était jamais allée voir un match au Vélodrome, on ne s'entend pas. Mais les gens ne peuvent pas, parce que la télé, on a un son, bien sûr, mais quand on le vit de l'intérieur, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, c'est ça Marseille ». Alors là, je comprends mieux. C'est vrai qu'au parc, c'est pas mal, c'est sympa, Par contre, Marseille, ça vit partout.
Alors, ce qui est intéressant, si Marseille vit partout, eh bien, c'est que son audience dépasse largement les frontières de la cité phocéenne, n'est-ce pas, Rémi N'Gono ? Écoutez ça.
Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il bouge.
Voilà.
Aux armes, nous sommes les Marseillais, nous sommes les Marseillais,
nous sommes les Marseillais,
nous sommes les Marseillais,
et nous allons gagner,
et nous allons gagner,
et nous allons gagner,
et nous allons gagner.
Alors ça, ces images qu'on voit notamment grâce à notre service vidéo de Facebook Live, Rémi, ce sont les supporters de la Nation, l'OM Nation, puisque récemment les supporters du Sénégal, on était à Dakar, eh bien, ont obtenu ce statut de la part du club de Marseille. Comment expliquez-vous le lien qu'il y a entre l'Afrique et Marseille ? Est-ce que c'est uniquement parce qu'on a eu un énorme défilé de très grands joueurs africains ? Évidemment, l'Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais Joseph-Antoine Bell, le Ghanéen Abedi Pelé et ses deux fils, hein, Jordan et André Ayou. Ou il y a aussi d'autres raisons, selon vous, Rémi ?
C'est d'abord des raisons principales. Et au-delà de ça même...
Il y a eu un président sénégalais, Pape Diouf, très important.
Il y a eu Pape Diouf malheureusement a été débarqué alors qu'il venait de faire un excédent de 20 millions d'euros, qui a permis d'ailleurs à Marseille d'acheter finalement des calebasses vides. Parce que voilà, quand on prend les 1-0 et tout qui sont arrivés en fin de carrière...
Parlez-moi du lien avec l'Afrique.
Mais avec l'Afrique, c'est quoi ? C'est que ce club représentait déjà ce qu'on peut dire la diaspora africaine. Donc au niveau même des médias africains, on n'entendait parler que de l'Olympique de Marseille. Et puis, lorsque vous voyez aussi des figures emblématiques, des gens vraiment costauds, solides, qui peuvent faire des choses, des différences, ça fait une très grande fierté que chaque pays africain avait presque sa star, des gens qui étaient déifiés en Afrique, et ça faisait que nous tous n'avions qu'un seul club. C'était l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que le Paris arrive actuellement et d'autres clubs, on en parle comme ça, mais c'est Marseille qui est resté là. Et bien évidemment aussi, ça a
Est-ce
renforcé...
Est-ce que Marseille perd du terrain ?
Beaucoup, beaucoup, parce que je crois que après l'épisode de Didier Drogba, qui a été pris quelque part, et les frères Ayou, qui ont aussi connu une certaine éclosion,
hein.
Voilà, on n'a plus vu, on n'a plus véritablement vu de stars africaines au niveau de l'Olympique de Marseille actuellement. Certes, on va dire que peut-être certains comme Nkoulou, Nicolas Nkoulou sont passés, mais ils n'ont pas marqué cette époque-là. Donc, et du coup, il n'y a pas quelqu'un qui représente un véritable miroir grossissant, une star comme les Joseph-Antoine Bell pouvaient être en Afrique. Non, il n'y en a pas actuellement. Et ça fait de telle sorte que les supporters d'autres clubs parviennent déjà à chambrer ceux de Marseille qui surfent uniquement sur le passé.
Il y a eu Mamadou Niang quand même.
Il y a eu Mamadou Niang avec, je crois, 19 buts également. Ça fait quand même un peu longtemps. Il y a eu même Diarra qui a été recruté à l'époque à 7 millions d'euros, mais il n'a pas beaucoup. Mais
C'est la mixité à Marseille qui a fait que l'Afrique a été ultra représentée dans ce club.
Exactement.
Il y a eu les grands joueurs qui ont joué, mais il y a aussi le contexte marseillais. On parlait tout à l'heure des quartiers de la Belle de Mai, on parlait de la fossée.
On rencontre des supporters sénégalais, on rencontre
même les pays du Maghreb sont très représentés à Marseille. Et je pense que cette mixité sociale permet à l'Olympique de Marseille de rayonner en fin de compte en Afrique.
On pourrait dire la même chose de l'Amérique du Sud. Il y a eu tellement de grands joueurs d'Amérique du Sud qui sont passés là-bas. Je pense à Francesco Li, je pense à Maradona qui a failli faire un transfert le plus fou.
On l'attendait.
C'était histoire d'amour avec Marcelo Bielsa. Donc ça, c'est un club très international et qui peut effectivement être familier avec des gens de tous les continents.
En tout cas,
on n'a pas Benedetto en ce moment. Hein.
Oui,
Dario Benedetto est en train peut-être de devenir une très grande vedette. Il faudrait qu'il se réveille là. Il s'est un petit peu endormi ces derniers matchs. Juste une chose, de par le monde, on ne parle que d'une Olympique. c'est l'Olympique de Marseille. Il n'y en a pas d'autres.
Eh bien, justement, merci beaucoup pour la passe décisive, Gilles Pérez, parce que ce week-end, donc, il y aura, et c'est l'affiche de cette Ligue 1, eh bien, Marseille reçoit Lyon, donc Marseille 4e qui reçoit Lyon 10e. Ils ne sont séparés que par 3 points, hein, malgré les apparences de ces différences au classement. Séparé aussi par une autre chose. Un certain Rudy Garcia était assis sur le banc ces deux dernières années pendant 2 ans et demi, remplacé par André Villas-Boas. Mais, il se retrouve maintenant sur le siège, appelé un peu en pompier en catastrophe, de l'OL. Et fera-t-il la misère, hein, c'est ça qu'on dit à Marseille.
C'est ce qu'on dit,
est-ce qu'il fera la misère à ses anciens joueurs, Rudy Garcia? Écoutez, ce matin, en conférence de presse, il y a eu Dimitri Payet qui parlait du côté de Marseille et Rudy Garcia qui parlait du côté de Lyon.
Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. Mais bon, après...
Juste pour vous rappeler que le match, c'est Marseille-Lyon. C'est pas Marseille-Rudy Garcia. Voilà. Donc moi, je joue pas, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je suis pas en condition physique. Donc je répondrai aux questions de terrain, évidemment, parce que ça m'intéresse. Mais qu'aux questions de terrain, voilà, ça peut orienter vos questions.
On peut quand même vous demander, Rudy, juste savoir ce que ça vous fait de retourner à Marseille.
Ça, c'est pas une question de terrain, donc...
Aviv, vous comprenez cette fixation autour de Rudy Garcia?
Oui, bah parce que des choses ont été dites.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de Rudy Garcia? Parce qu'il le dit, hein, Dimitri Payet, oui, par rapport à tout ce qu'il nous disait.
Oui, mais je pense qu'il doit appréhender ce moment quand même. Parce qu'il sait à quel point ce club peut se renverser sur l'aspect positif, mais également sur l'aspect négatif. Rappelez-vous ce qu'a vécu Valbenin, c'est pas le genre de choses qu'on veut voir dans un stade. Mais ça montre la passion parfois débordante dans l'aspect négatif. Et je pense que son accueil va pas être un accueil chaleureux. Il a dit aussi des choses lorsqu'il était à Marseille sur l'Olympique lyonnais. On voit à quel point l'accueil des supporters lyonnais est froid.
Une girouette, c'est
et
ça.
Oui, alors je pense qu'il a raison de faire profil bas parce que ça rendrait pas service à son équipe qu'il attise le feu autour de cette rencontre. Je pense que le contexte est déjà assez puissant. Et puis après, bien sûr qu'il doit se concentrer sur son équipe. Il veut pas aller chercher des épiphénomènes en dehors du football parce que lui, il faut absolument que son équipe soit concentrée sur l'objectif de gagner à Marseille.
Alors Marc Libra, est-ce que l'OM peut gagner dimanche soir dans ce contexte, l'anniversaire? Une fête et en plus cet enjeu sportif. Tout à l'heure, Rudy Garcia a confirmé que Memphis Depay, qui est quand même l'un des meilleurs Lyonnais actuellement, ne jouerait pas, ni Lucas Touzard, c'est parmi les absents lyonnais.
Ils ont bien sûr qu'ils sont capables de gagner. Maintenant, ce sont deux équipes à réaction qui sont capables de jouer 35-40 minutes et puis de disparaître. On l'a vu encore une fois cette semaine où les Lyonnais peuvent jouer une partie, la seconde période ça se passe mal. Et pareil pour Marseille. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que Marseille, à ce moment-là, il y a le public et tout le monde attend encore plus de ce fameux OL contre Olas. Il y a Garcia maintenant, donc ça va pousser encore plus et que vous avez une raison de plus pour essayer de marcher entre guillemets sur l'Olympique Lyonnais. Donc, par rapport à Garcia, je suis d'accord avec Habib, ça va être quand même assez chaud pour lui. Il était Marseille il n'y a pas longtemps, il sait très bien comment ça peut se passer. Après, au fond de lui, il peut se dire, si je peux les battre, je serai le plus heureux. Mais en tout cas, quand on joue ce genre de rencontre, on sait qu'on note le match du PSG, on note le match de l'OL, mais encore plus avec ce qui s'est passé. Certains joueurs, comme Payet, ont entendu ce que disait Rudy Garcia à une époque. Aujourd'hui, il sort l'inverse, il dit la chose inverse. Donc, tout est réuni pour assister à un grand match qui, j'espère, ne partira pas en pugilat ou dans des bêtises que l'on peut voir à certains moments.
Alejandro, vous voyez un favori sur le plan sportif dans cette rencontre?
Je donnerais un avantage à Marseille, quand même, qui semble retrouver quand même une bonne dynamique et en plus qui a eu la chance de préparer ses matchs tout au long de la semaine alors que Lyon devait disputer la Ligue des Champions. Donc, je pense que ça constitue quand même un avantage.
Rémi, avantage aux Marseillais?
Oui, parce que...
Marseille qui existe, donc. Hein.
Marseille existe, bon, et de toutes les façons. Sauf que Marseille n'existait pas devant Lyon avec Garcia.
Non,
Garcia
n'avait jamais... Il ne gagne pas depuis 2014
voilà,
au Vélodrome.
Donc c'est comme ça. Mais bon,
il y a quelque chose à vaincre, là.
Comme Garcia, c'est le chat noir. Donc on se dit...
Donc là, c'est le chat noir dans le camp d'en face.
Donc maintenant, on se dit que comme il est parti, certainement, idéal, ça a commencé. Comment vous perdez votre meilleur joueur ischio, c'est-à-dire que aux ischios jambiers, au moment où il est en pleine forme, c'est-à-dire que Memphis Depay, c'est quand même...
Il s'est bien donné sur la scène européenne.
Parce que c'était quand même sa base là, et puis je crois que son retour à Marseille, il ne rentre pas déjà étant trop serein, on le voit déjà, et puis il sait très bien que aller gagner à Marseille, il ne va pas faire des miracles, il ne va non plus mettre toute son énergie pour gagner Marseille. Il y a un proverbe africain qui dit « on ne jette pas le caillou là où on a caché sa dame jeune ».
En tout cas, une mission pour cette équipe, et c'est l'expression qu'on a bien sûr, c'est celle de mouiller le maillot. Écoutez le chanteur Soprano, un enfant de Marseille, enfant aussi qui représente notamment la communauté comorienne. Eh bien, il la donne, cette consigne, et lui, le passionné, il l'a mise en musique.
C'est la maison, depuis que je suis tout petit, c'est l'endroit qui me fait rêver. La première fois que je suis venu ici, jusqu'à la fois où je me suis monté sur scène, à chaque fois ça m'a fait rêver. Même quand ils perdaient, je venais quand même avec la banane en voyant l'ambiance, en voyant le stade, en voyant... Chaque fois je me disais, c'est un truc de fou, je suis au stade. Donc c'est un truc mythique pour moi, qui me rappelle tellement de choses et qui représente tellement de choses pour moi.
On a plus de 100 ans, parle pas de ton club. Si tu viens au virage, c'est sûr que tu bugs. Le maillot, oh, oh, le maillot, oh, pour le maillot, oh, mouille le maillot, oh.
Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Le maillot.
Habib, vous la connaissez cette chanson ?
Oui, je la connais, Alonso avec
Alonso,
Soprano.
Exactement, ouais. Avec Soprano.
Oui, c'est les deux acolytes des psychiatres de la rime, ils étaient d'ailleurs quatre.
Exactement.
Il y en a un qui est des quatre qui est décédé, d'ailleurs Soprano en parle très souvent. Mm-hmm.
Et puis, c'est un style.
Et ça fait plaisir quand on voit que son club fait l'objet d'une chanson. Alors, des fois, il y a des chansons sur les joueurs aussi, hein, des refrains. Est-ce que ça vous touche, ça vous émeut ou ça fait partie?
Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un chanteur qui connaît un succès énorme et qui n'oublie jamais ses racines et qui est ancré en fait aussi à cet Olympique de Marseille. Il le traduit en chanson. Donc,
il le raconte
c'est
bien.
Qui est
on le voit très souvent dans Marseille, on le croise. On le croise aussi le groupe IAM. On les voit très souvent à Marseille, on les voit à la Canebière. Puis, rappelez-vous, Chris Waddle et Basile Boli avaient déjà fait un titre à l'époque, 93.
Exactement.
Non, mais ça pas. Non, je dis pas. C'est 91 c'était ou 92.
Moins musical.
Ouais, mais rappelez-vous que c'était. Non, mais c'était oui, déjà oui. Important que ces joueurs-là. Après, Doc Gineco avec Basile Boli aussi, ils avaient passement de jambes sur le beat de flambe. Enfin, il y avait voilà. Donc c'est pour nous Marseillais, c'est logique. La chanson, c'est tout. C'est voilà, c'est comme ça.
Bon Gilles, vous irez chanter vous dans le Stade Vélodrome dimanche soir, c'est ça?
Ah bah attendez, bien évidemment, je vais me retrouver avec toute la vieille garde, vous savez, c'est les vieux grognards qui ont fondé le premier club des ultras en France, le CU84, et donc on va se retrouver du stade de la statue de David pour ouais. Remonter tout le deuxième Prado et arriver enfin au Vélodrome, et là c'est évident, on va pousser la chansonnette, et on va fabriquer donc ce tifo absolument extraordinaire qui est vraiment mystérieux, on nous a fait jurer cracher, de ne rien dire, même à la radio mondiale.
Eh bien alors, on attend le match. Et on verra la surprise. Lundi, on le racontera dans Radio Foot. Merci beaucoup, Gilles. C'est déjà la fin de cette émission. On a été envahi par l'OM, c'est pas grave.
Non, c'est très bien.
C'est logique.
À noter quand même. Historique.
Il y avait quand même le capitaine Habib Bey.
À noter quand même qu'il y a un Liverpool-Manchester United.
Manchester City,
dimanche soir. Et samedi soir, ça sera Bayern Munich-Borussia Dortmund. Merci à tous. Merci à David Finzel, à Laurence Alerno, à Pierre Guérin. Merci aussi à Swell El-Kedir et à Laure Temperville. Merci messieurs.
Merci
à vous. Bravo les amis.
Droit au but, c'est ça.
Ben allez, oui.
À lundi.